Bonne journée, Tiphaine. À bientôt.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour plonger une dernière fois dans le smog de Londres à la rencontre de Charles Dickens, dans une émission proposée par Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Chloé Casmarek, Didier Pinault et Nicolas Delmas. C'est un homme traumatisé par son enfance dont nous parlons toute cette semaine dans la compagnie des auteurs. Une enfance durant laquelle Dickens s'est senti abandonné par ses parents qui l'envoyèrent travailler dans une entreprise de cirage où la tâche était abrutissante. Une fois adulte et rapidement devenu célèbre, il se donnera pour mission de dénoncer la misère, comme nous l'a expliqué lundi son biographe Jean-Pierre Hall dans une émission à retrouver en podcast. Mardi, avec Nathalie Vanfasse de l'Université de Provence, nous nous sommes arrêtés d'abord sur la question de la déviance dans les romans de Dickens. Déviance peu tolérée par la société victorienne, mais dont il a contribué à redéfinir les contours et à influencer les lois. Nous avons également parlé de Dickens voyageur. Enfin, hier, c'est d'histoires de fantômes dont il a été question dans cette émission. Mon invité était Isabelle Gadouin de l'Université de Poitiers, qui s'y connaît en spectre en tout genre, puisqu'elle a préfacé un recueil de nouvelles fantomatiques de Dickens dans la collection Folio. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler cette saison des contes de Noël qu'elle a préfacé dans l'édition Folio Gallimard, je recevrai en seconde partie de cette émission la romancière Dominique Barberis. Ce sera après la chronique de Frédéric Magé. Mais tout de suite, deux romans de Dickens, David Copperfield et Un conte des deux villes. Nous en parlons avec Laurent Bury, professeur de littérature britannique à l'Université Lyon 2, co-traducteur de David Copperfield, sous la direction de Paul Laurin aux éditions du Livre de Poche, et également auteur d'une étude en anglais sur le roman Un conte des deux villes. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
You are hearing my record.
Je me vois encore assis à mon pupitre. Je guette son regard. Je guette humblement son regard tandis qu'il règle un cahier d'arithmétique pour une autre victime dont les mains viennent d'être aplaties par cette même règle et qui essaie de faire disparaître la brûlure en la frottant avec son mouchoir. J'ai beaucoup à faire. Ce n'est pas par désœuvrement que je guette le regard de M. Creakle, mais parce qu'il exerce sur moi une attirance morbide, par un désir mêlé de terreur de savoir ce qu'il va faire ensuite, si ce sera mon tour de souffrir ou celui d'un autre. Une rangée de petits garçons placés après moi guettent son regard avec le même intérêt que moi. Je crois qu'il le sait, bien qu'il fasse semblant de n'en rien voir. Il fait des moues épouvantables tout en réglant le cahier d'arithmétique. Puis il jette un regard de côté sur notre rangée. Et nous baissons tous la tête en tremblant sur nos livres.
Un extrait de David Copperfield enregistré en 1966. Bonjour Laurent Bury.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Cet extrait qu'on vient d'entendre, il est dickensien en diable.
Oui, il est dickensien parce qu'il correspond bien à cette image d'enfance maltraitée, d'enfance à qui l'on inflige des tas de choses qui sont très désagréables et qui ne devraient peut-être pas être infligées aux enfants. Mais en même temps, Dickens, ça n'est pas que l'enfance. C'est vrai qu'il y a plusieurs romans que l'on considère comme typiquement dickensiens qui ont au centre de leur intrigue un enfant. Mais il y a aussi des romans où il n'y a pas d'enfant du tout chez Dickens. Vous avez parlé tout à l'heure du Comte de Deville. C'est un roman où Bon, il y a un personnage d'enfant, mais qui est extrêmement mineur, on n'en parle quasiment pas. Et simplement aussi, il faut se rappeler que Dickens a repris une forme romanesque qui est un peu héritée du siècle précédent, on pourrait dire la forme du roman picaresque, qui suit un personnage parfois depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et David Copperfield en est un exemple. Effectivement, le roman s'ouvre sur la naissance de David Copperfield, mais il y a toute une partie du roman où le personnage n'est plus du tout un enfant, où il est un jeune adulte et où il vit des problèmes de jeune adulte et pas du tout d'enfant.
Alors s'il y avait quelque chose qui serait vraiment dickensien et qu'on retrouverait dans tous les romans, qu'est-ce que ce serait, Laurent Burie ?
Bonne question.
Si ça existe, bien sûr.
Oui, si ça existe. En fait, il y a quand même eu aussi une diversité des romans dickensiens que l'on connaît mal en France, parce qu'on connaît juste quelques titres. On connaît Oliver Twist, on connaît David Copperfield, et donc c'est pour ça que Dickens a gardé cette image de romancier de l'enfance, qui n'est pas fausse, mais qui est partielle.
Mmh. On a l'impression que David Copperfield, c'est quand même la voie royale pour entrer dans l'œuvre de Dickens. C'est votre avis aussi ?
Alors, c'est un grand, long roman de Dickens. C'est sans doute un de ses meilleurs. C'est un roman qui a un caractère en partie autobiographique à cause de cet épisode dont vous avez parlé de l'enfance de Dickens, quand ses parents l'ont envoyé travailler dans cette usine de cirage. Alors, ça n'était pas par choix. Ses parents ont fait ça parce que le père de Dickens a été envoyé en prison. Donc, les ressources financières de la famille étaient très réduites. Il a fallu trouver des solutions. Et surtout, cette expérience a été traumatisante pour Dickens parce que ça a été déjà une expérience du déclassement social. Dickens appartenait par sa famille à une bourgeoisie anglaise, et tout à coup de se retrouver au milieu d'ouvriers, c'est ça qui l'a beaucoup choqué aussi. Et en même temps, c'est un épisode qu'il a ensuite tenu secret pendant toute sa vie, dont seuls ses intimes, vraiment, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu tant de gens que ça, peut-être une ou deux personnes qui étaient au courant, mais c'est un épisode qui n'est devenu connu qu'après sa mort, quand son ami le plus proche a écrit une biographie de Dickens où il a révélé que cet épisode-là, en fait, qu'on trouve dans David Copperfield, venait directement de l'enfance de l'auteur.
Voilà, Forster qui a dit justement dans cette biographie que sous la fiction de David Copperfield se cachait quelque chose, il dit seulement quelque chose, par pudeur sans doute, de la vie de l'auteur. Alors ce qui est quand même dickensien, hein, je continue sur ce registre dans David Copperfield, c'est d'abord l'humour. C'est aussi la chaleur, c'est la profusion et la variété des personnages, Laurent Burie.
Oui, tout à fait. David Copperfield est un roman très long. Il faut savoir, ça correspond aussi à des habitudes de publication de l'époque de Dickens, qui voulait qu'on publie tous les romans en 3 volumes. Donc, 3 volumes, ça suppose quand même une certaine longueur. Les lecteurs étaient habitués aussi à quelque chose d'assez copieux, d'assez consistant à lire. Et je me disais qu'il y a un autre élément encore qu'on trouve dans les romans de Dickens. Il y a de l'humour, bien sûr, il y a cette profusion, mais il y a aussi du pathos. Et ça, c'est quelque chose qui a peut-être un peu vieilli, que l'on imagine moins, mais qui est très présent aussi, et notamment en relation avec des enfants. Il y a un roman de Dickens dans lequel était décrit la mort d'une petite fille, et ça, c'est resté quelque chose de tout à fait emblématique aussi de cet auteur.
Alors à ce sujet, je vous propose justement d'écouter ce que disait l'écrivain Michel Chailloux en archive.
On pourrait longtemps gloser sur Dickens, mais Dickens a réussi un tour de force absolument magistral de créer des situations qui par essence sont mélodramatiques et donc par essence d'une qualité parfois médiocre, et en même temps d'arriver à revivifier cela par le génie et d'arriver à donner des personnages qui pleurent une beauté qui ne soit plus du tout larmoyante. C'est-à-dire qu'il y a chez Dickens une infinité de personnages secondaires qui réfléchissent les héros et qui font que l'on passe d'un personnage principal à un autre par une foule. Il y a des maisons, des encoignures, de ruelles, de rues, des fragments de visages, de caractères, des phrases, des exclamations, des remarques, des descriptions absolument prodigieuses. Et très souvent, Dickens d'ailleurs était prisonnier de ses débuts de romans, puisqu'il écrivait souvent pour les journaux. Il pouvait donc plus changer le début qui avait déjà paru. Et il fait des tours de force extraordinaires. On sent très bien d'ailleurs quand il force le destin des personnages, quand les personnages agissent malgré lui. Et c'est cela qui donne une impression étourdissante de vie.
«
Michel Chailloux qui pointe aussi le pathos, le mélo chez Dickens, mais pour qui Dickens arrive quand même à éviter l'écueil d'un trop de pathos. C'est votre avis aussi, et comment fait-il s'il y arrive?
Alors, tout dépend aussi du Dickens dont on parle, car il a eu une carrière très longue, il a commencé à écrire très jeune et bon, il n'est pas mort très âgé, mais il a eu le temps quand même d'évoluer dans son style, dans sa façon d'écrire des romans. Et il y a un Dickens de jeunesse qui n'hésite pas à tirer les larmes du lecteur. Et il y a un Dickens plus mûr qui a trouvé une façon peut-être plus subtile de jouer avec la sensibilité du lecteur.
Donc le premier Dickens, vous, il ne vous intéresse plus tellement? Vous ne le lisez plus avec plaisir? Il a mal vieilli?
Si, il a un intérêt. Il a un intérêt évident qui n'est pas le même qu'un Dickens plus réfléchi, plus ambitieux, le Dickens de la maturité. Mais il y a aussi des choses à y trouver, bien sûr. Simplement, il ne faut pas y chercher les mêmes choses nécessairement que dans d'autres ouvrages.
En tout cas, David Copperfield, c'était le roman préféré de Dickens, son enfant favori.
Oui, c'est vrai, c'est un roman dans lequel il a mis beaucoup de lui-même, même si bien sûr il a pris ses distances par rapport à son propre vécu. Il y a évidemment beaucoup de choses qui viennent de son passé, on l'a dit déjà tout à l'heure, et dans la forme autobiographique qui est celle du roman, puisque le roman est narré à la première personne par ce jeune homme qui devient écrivain. Donc c'est évidemment un double de Dickens, et on a évidemment fait remarquer aussi les initiales de David Copperfield, DC, qui sont juste l'inverse de Charles Dickens, CD. Bon, ouais. Ça c'est un peu facile, mais...
Et c'est aussi un roman familial. Or, on sait que la famille, c'est important, ça a été une grande question, le rapport de Dickens à son père et à sa mère, ça a été une grande question pour lui. Là, on est dans un roman où on passe d'une famille à une autre. C'est quoi le motif de la famille chez...
Il y a beaucoup déjà le motif de l'orphelin. Des orphelins, Dickens en a imaginé beaucoup, il en a présenté beaucoup, parce que là aussi c'est une façon assez facile d'émouvoir le lecteur. Un enfant privé de ses parents, le seul au monde, attire naturellement la compassion du lecteur. Donc c'est toujours une bonne recette que de prendre pour héros un orphelin. Et en même temps, le fait que le héros n'ait pas de famille directe, plus de père, plus de mère, lui permet peut-être plus de liberté et donc d'évoluer dans le vaste monde, de parcourir la société d'une classe à l'autre dans son ensemble. C'est aussi l'intérêt d'avoir des personnages d'orphelins libres de toute attache.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté oedipien dans ce roman ? Dans le rapport qu'entretiennent les parents et les enfants, que David Copperfield entretient notamment avec sa mère, Laurent Bury?
Alors ça, c'est un vrai problème. En fait, je crois qu'il y a très peu dans les héros dickensiens, il y en a très peu qui ont leurs deux parents. Ils sont tous, sinon orphelins complets, au moins privés de l'un des deux. Et donc, de ce fait, ils ont forcément des relations, pas faussées, mais disons des relations particulière, puisqu'ils n'ont plus qu'un parent qui est obligé de servir de substitut. Et souvent, les difficultés naissent de la présence d'un nouveau parent qui arrive dans la famille. Dans David Copperfield, c'est bien sûr le second mari de la mère de David.
Oui, parce que le personnage de David Copperfield, il aurait voulu vivre seulement avec sa mère, comme quand il était enfant.
Oui, au départ, le roman se situe dans une sorte de bulle idéale où le héros vit avec sa mère et surtout sa nourrice Peggotty qui s'occupe énormément de lui. Et tout change du jour au lendemain, ou presque, quand la mère de David se remarie. Et là, il arrive ce beau-père extrêmement sévère qui n'a pas envie de perdre de temps avec le fils du précédent mari et qui se débarrasse de lui. Purement et simplement.
Alors, ce qu'on apprend aussi, Laurent Bury, quand on lit David Copperfield, c'est que Dickens entretenait un rapport avec Les Mille et Une Nuits, qui était un rapport très fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce roman qui relève du conte sans cesse réinterprété des Mille et Une Nuits?
Alors, il y a souvent chez Dickens des allusions précises à des contes des Mille et Une Nuits, mais qui prêtent juste un motif ici et là. Et sinon, le lien qu'on peut trouver, c'est peut-être avec l'univers du conte de fées de manière générale, puisque au moins pendant tout le début de sa carrière. Dickens a voulu écrire des romans qui finissent bien, et pour qu'un roman se finisse bien, souvent il faut l'intervention, sinon de la magie, du moins de bienfaiteurs un peu surnaturels qui arrivent et qui, d'un coup de baguette presque magique, arrivent à remédier à tous les problèmes qu'on croyait désespérés.
Mmh. Mais il limitera toujours la narratrice Scheherazade avec des livres qui n'ont peut-être pas été écrits la nuit, mais qui ont été nourris de nuit, qui ont été nourris d'ombre et d'énigmes, Laurent Bury. Il y a ça quand même.
Oui, Dickens avait une vie très très remplie. Et s'il écrivait la nuit, c'est aussi parce qu'il avait des journées très occupées. On parlait de relations familiales tout à l'heure. Dickens a aussi été l'un de ces victoriens, l'un de ces personnages qui, derrière une façade de respectabilité, cachait une double vie. Dickens avait une maîtresse, Dickens a abandonné son épouse, donc il avait aussi deux maisons, il avait des enfants et une femme encore quand même, et il avait d'un autre côté sa jeune maîtresse. Donc Dickens aussi gagnait sa vie à une époque en faisant des conférences.
Ça, c'est l'oralité, c'est Scheherazade, justement.
Ah ben voilà, oui. Alors donc on y est. Dickens a beaucoup, sur la fin de sa vie, fait notamment des tournées en Amérique et ailleurs pour lire des extraits de ses romans, et il avait un succès énorme en lisant ces extraits.
J'ai toujours lu Dickens et relu sans aucune fatigue. J'avais le sentiment de m'instruire de ce qui importe. Depuis que j'ai appris à trouver mes idées dans les romans, j'ai bien pris au sérieux Dickens, qui, dressé, me paraît correspondre par ses étages à la structure humaine. C'est le seul à mes yeux qui, au lieu de me proposer des idées qu'il a inventées, me propose les miennes et les marques de chaos et de création. Je ne puis m'empêcher de le voir platonicien par ses voyages montants et descendants, par une couleur du purgatoire et par une adhérence remarquable des maisons aux personnages. Chacun des volumes me représente un monde que j'ai saisi d'abord et qui, pour moi, n'a pas changé. Quel monde ? Londres comme il est. C'est-à-dire une immense banlieue, avec de grandes rues commerçantes et de petits parcs avec d'agréables maisons, des oiseaux, des fontaines. Je n'ai pas vu Londres, mais d'après ce qu'on en dit, je crois que je ne l'imagine pas mal. On me disait l'autre jour que personne, même en Angleterre, ne connaît Londres. L'administration en est fort compliquée. Tout repose sur l'usage et la tradition. On y trouve une variété incroyable de conseils et de juges qui assurent la vie quotidienne. Pour le reste, chacun est responsable d'une petite chose et un balayeur balaye de tout son cœur avec l'approbation de tous. Les médecins ont un rôle dans ce gouvernement éparpillé. De là ces traits antiques que l'on trouve dans Dickens, comme ce cimetière qui ouvre presque sur la rue. Dans le même roman, on remarquera utilement l'enquête du coroner sur un soupçon de suicide. Qu'y voit-on ? Une salle de café, avec toutes sortes de petits notables convoqués, et qui jugent selon le bon sens. Entendez qu'elles ne devraient point marcher, ces institutions, mais elles marchent. Et si elles manquaient, on en trouverait d'autres derrière, par exemple une association des charcutiers, ou bien des drapiers, dont le président serait sommé d'administrer. Cet univers mal connu, on le trouve partout dans Dickens.
La compagnie des auteurs sur France Culture, et cet extrait de « En lisant Dickens » du philosophe Alain, lu par Philippe Moreau. Vous êtes sensible, vous, Laurent Bury, à cette idée que Dickens illustre, par le chaos de la fiction, des idées qu'il a sur le monde ?
Je dirais qu'il y a d'une part une sorte de chaos joyeux chez Dickens à cause de cette simple profusion de personnages dont on parlait tout à l'heure, à cause de ces rebondissements qui arrivent sans cesse. On peut visualiser ses romans comme justement une sorte de pêle-mêle de personnages et d'événements. Mais il y a aussi un chaos plus sombre, plus sinistre presque, lorsque Dickens utilise cette image du chaos pour dénoncer un certain nombre de choses de son époque, parce qu'on a parlé de l'enfance maltraitée, mais il n'y a pas que ça. Dickens a aussi essayé de décrire plus généralement le fonctionnement de la société. Il y a un roman, par exemple, qui s'appelle Bleak House, qu'on a traduit par la maison d'Apprevant en français, qui s'ouvre sur une vision de Londres comme un univers complètement préhistorique, comme une sorte d'immense bourbier dans laquelle des dinosaures évoluent presque. Mmh. Et le chaos, c'est aussi une image très forte dans ce roman qui se passe en grande partie, enfin en partie en France, qui est un conte de Deville, qui se passe à l'époque de la Révolution française. Et là aussi, des images de chaos violent, des images de violence populaire, des images de sang versé, il y en a beaucoup. Et c'est là qu'on voit que Dickens était quand même aussi un personnage conservateur, malgré son image libérale et ami du peuple. Quand il décrit la Révolution française, à une époque où on n'en était pas encore si loin, où il y avait encore des témoins vivants de cette révolution, c'est surtout pour mettre en garde le lecteur anglais en lui disant « Attention, si la société ne se réforme pas d'elle-même, voilà ce qui pourrait arriver en Angleterre aussi, c'est le chaos qu'a vécu la France en 1789. »
Alors parlons justement de ce livre, Un conte des Deville. Vous lui avez consacré une étude, Non-dit et non-sens dans A Tale of Two Cities. C'est aux éditions des Presses universitaires de France. C'est un livre qui est un petit peu méconnu par rapport aux autres livres de Dickens. Pour quelle raison ?
Alors,
en France, en tous les cas.
Oui, hein. C'est un roman de la fin de la carrière de Dickens, déjà. Donc, on est loin des Oliver Twist et autres ouvrages qui ont vraiment fait son succès. C'est aucun rapport avec Pickwick, qui a été le premier roman qui a vraiment lancé Dickens. Et peut-être aussi, le problème, c'est justement que ce roman se passe en France et évoque des événements historiques.
Enfin, il se passe entre Londres et Paris, parce que c'est justement ça, les deux villes dont il est question.
Il se passe en partie en France et... peut-être que le lectorat français n'était pas prêt, sinon à recevoir de leçons d'un auteur anglais, mais du moins à accepter la vision d'événements français que lui présentait un auteur anglais.
Bon, en tout cas, ça n'a pas effrayé Margaret Thatcher quand elle est venue voir François Mitterrand à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, puisqu'il paraît qu'elle lui aurait offert ce livre.
Tout à fait.
C'est un outrage terrible.
Oh, ça dépend comment on prend la
chose.
Alors
pourquoi est-ce que ça pourrait être un outrage, justement ? Ça nous expliquera un peu ce que dit le livre. Ça
pourrait être un outrage parce que les personnages français, en tout cas beaucoup de personnages français dans ce roman, ne sont pas décrits de manière particulièrement flatteuse. Alors, il y a quelques personnages français qui font partie du groupe central de personnages et qui sont donc des figures positives, mais il y a aussi toute une description du quartier Saint-Antoine à Paris, où les personnages sont décrits comme des bêtes brutes, mais c'est une forme d'aliénation dont ils sont victimes. Ça n'est pas simplement parce qu'ils sont français que ce sont des monstres, mais ça pouvait ne pas plaire au lecteur.
Il y a une mise en parallèle de Soho à Londres avec ce quartier de Saint-Antoine à Paris. Il y a un aller-retour entre les deux.
Oui, c'est vrai que Dickens s'efforce de montrer qu'il y a des parallèles, que la barbarie est la chose du monde la mieux partagée, puisqu'elle existe aussi bien à Londres, elle existait aussi bien à Londres au XVIIIe siècle, à Paris. Donc, on pourrait voir une sorte d'égalité des sorts, sauf que la Révolution a éclaté à Paris et pas à Londres.
Et donc, la thèse de Dickens, au fond, c'est quoi ? C'est-à-dire la Révolution et la Terreur, parce qu'il s'intéresse beaucoup à la période de la Terreur, ça reste le fait des aristocrates. C'est la faute des aristocrates s'il y a eu la Terreur.
C'est résumable
comme ça.
C'est une vision de l'histoire peut-être un peu simpliste, mais ce que montre Dickens, c'est bien qu'il y a des aristocrates cruels, indifférents au sort de leurs sujets, et que la Révolution est une sorte de vengeance inévitable qui finit par se produire. À force d'être négligé, maltraité, brutalisé, le peuple se soulève et détruit les châteaux et s'adonne à des grands moments, des sortes de grands massacres, de grands bains de sang qui sont décrits dans le roman et où là, on ne peut plus suivre, même si Dickens a de la sympathie pour les victimes. Quand les victimes deviennent bourreaux, c'est là que le chaos se produit et que justement la menace de la Révolution devient quelque chose qu'il brandit pour montrer qu'il est temps encore d'agir en Angleterre, pour éviter d'en arriver là.
Donc c'est cet objectif qui guide Dickens, la politique anglaise. Mais sur son jugement de la Révolution française et de la Terreur, est-ce que vous diriez qu'il est nuancé ou est-ce que vous diriez qu'il est, comme souvent, assez manichéen ? dans sa manière d'exposer les responsabilités des uns et des autres.
Oui, je pense aussi que pour un roman, Dickens sentait qu'il devait faire simple, qu'il fallait qu'il soit assez immédiatement compris de son lecteur, qui n'était pas forcément au courant des moindres détails. Et donc, c'est pour ça qu'il s'arrête sur des figures symboliques. Et de fait, la vision est assez manichéenne. On a le méchant aristocrate et le peuple opprimé.
Mais ce sont des personnages qui sont régis par leur classe sociale. C'est une vision qu'on pourrait dire structuraliste de la société. L'individu n'est pas très libre chez Dickens.
Non, effectivement, le roman repose sur des stéréotypes. À cela près qu'il y a quand même un individu qui est libre, puisque lui-même étant fils d'un aristocrate français, choisit d'émigrer, de partir pour l'Angleterre et de vivre une vie, sinon cachée, du moins la vie d'un citoyen ordinaire, avant même que la Révolution n'éclate en France.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Parlons un petit peu, Laurent Burie, si vous le voulez bien, de la langue de Dickens, et en particulier dans ce livre-là. C'est une langue assez étrange, et notamment quand il fait parler les Français. Alors comment fait-il pour retranscrire la parole des Français dans sa prose en anglais, Laurent Burie ?
Alors ça, justement, c'est assez curieux. C'est quelque chose qui lui a été reproché, d'ailleurs, à l'époque où le livre est paru, pas seulement par des Français, ça lui a été reproché par des critiques anglais, qui trouvaient que dans cette espèce de franglais que Dickens avait inventé pour ses personnages français, il y avait quelque chose d'un peu absurde finalement, surtout lorsqu'on a un dialogue entre deux personnages, si le dialogue se déroule à Paris et que les deux personnages sont censés parler en français, pourquoi prêter à l'un d'eux une sorte de... Bon, évidemment, le dialogue est écrit en anglais par Dickens, mais...
Mais pour... avec des francismes.
Oui, voilà, avec des gallicismes bizarres, avec une structure grammaticale de la phrase qui imite celle du français. C'est un choix assez curieux, si c'est vrai.
Et c'est amusant, ça rend quelque chose de cet ordre-là.
Oui, c'est amusant, il ne faut pas non plus que Dickens en abuse, parce qu'après, ça finit par devenir fastidieux. Et ça pose notamment problème aux traducteurs, parce que... Que fait-on de ça si on doit donner une version française du roman? Là, ça devient plus délicat.
Alors, vous expliquez aussi, Laurent Burie, que c'est un roman où il n'y a pas de jurons, il n'y a pas de gros mots, ce qui est aussi finalement assez peu crédible dans le milieu qu'il décrit et dans le temps quand même très troublé, propice aux jurons, bien entendu.
Oui, mais ça, c'est aussi un problème lié à l'époque à laquelle Dickens écrivait. Il n'était pas question de mettre dans ses romans des choses qui auraient pu choquer le lecteur, surtout, même si d'ailleurs Dickens se moquait lui des gens qui étaient très soucieux de respecter la sensibilité des jeunes personnes du sexe féminin. Malgré tout, il faut bien voir que les romans étaient en grande partie consommés par des lectrices et qu'il ne s'agissait pas de les offusquer par des gros mots, justement. Mmh.
Donc ça va à l'encontre de ce dicton anglais, calling a spade, appeler un chat, en l'espèce appeler une pelle. Alors ça, c'est ce qu'il ne fait pas, Dickens.
Oui, mais Dickens est un homme plein de contradictions. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y avait de grandes différences. Et de même, entre certaines théories qu'il avait et la façon dont il les appliquait dans ses romans, il pouvait aussi y avoir un monde.
Oui, donc lui, appliquer un chat... Appeler un chat, un chat, c'est pas tellement finalement ce qu'il fait même dans sa vie en réalité.
Non, mais disons, il se rattrape en montrant des choses que les gens ne veulent pas voir, sinon dans le vocabulaire, du moins dans la réalité des faits, dans sa façon de dépeindre le fonctionnement de la société, dans sa façon de décrire les êtres humains.
Merci beaucoup Laurent Burie d'être venu nous parler aujourd'hui de David Copperfield et du Comte des Deux Villes. Je rappelle que vous avez co-traduit le premier et rédigé un livre aux presses universitaires de France sur le second, c'est en anglais. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Tout de suite, la chronique.
La compagnie des auteurs Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les jeudis, vous le savez, dans la compagnie des auteurs, nous proposons à un grand lecteur ou une grande lectrice de venir nous parler subjectivement du sujet, de l'auteur dont il est question dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Frédéric Magé, directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur en Puisée. Bonjour Frédéric.
Bonjour Mathieu.
Vous vous êtes fixé comme règle de parler toujours à ce micro de femme écrivain. Et en relisant Dickens, eh bien, vous avez pensé à sa contemporaine et compatriote George Eliot. Vous pouvez peut-être nous rafraîchir la mémoire sur George Eliot.
Ben oui, alors le parallèle était évident, les deux se connaissaient bien, et Charles Dickens est d'ailleurs probablement le premier à avoir deviné derrière le pseudonyme masculin George Eliot l'identité d'une femme, dont le nom d'ailleurs à l'époque était synonyme de scandale, Marianne Evans. On le sait puisque après la publication du premier ouvrage donc signé par George Eliot, on est là en 1857-58, il lui écrit une lettre où il lui dit qu'il ne croit pas du tout à la supercherie du nom qui figure sur le titre et qu'il a deviné derrière le regard qu'elle posait sur la campagne anglaise, le regard d'une femme et le sien en particulier. Alors c'est vrai que l'étoile de Dickens, elle a continué à briller, et celle de George Eliot a depuis pâli. On a oublié qu'à la mort de Dickens en 1870, George Eliot prend la place de Dickens comme le grand romancier de l'époque victorienne. Alors peut-être, et c'est Virginia Woolf qui avance une hypothèse dans un texte qu'elle lui consacre en 1919, elle dit il lui manquait peut-être un peu de charme. Alors c'est vrai que chez George Eliot, évidemment, c'est pas une séductrice. D'abord, quand on regarde ses portraits, on voit un visage très allongé, chevalin, dit Virginia Woolf, très austère, qui est d'ailleurs renforcé par ses cols très haut montés, avec un petit liseré blanc qui lui donne un air de clergyman. Et puis c'est vrai aussi que dans ses romans, on trouve beaucoup, et la critique lui a reproché à l'époque, d'aphorismes, d'interventions d'auteurs qui témoignent d'une grande rectitude morale qui peut un peu comme ça donner l'image d'une austérité ou d'une sévérité. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de George Eliot que cette austérité. Il y a dans sa vie un peu comme la flosse dans le célèbre roman Le Moulin sur la flosse, une espèce de courant qui emporte la vie et l'œuvre et qui témoigne véritablement d'une audace et d'une liberté chez cette femme qui, à mon avis, peut encore frapper et toucher les contemporains. Alors elle naît, pour répondre à votre question, en 1819, dans une campagne anglaise qui est à peu près située entre Oxford et Birmingham, je prends des repères très larges là, dans une campagne en tout cas qui n'est pas très très éloignée de celle décrite par Fielding, cette campagne du XVIIIe siècle. Elle témoigne très très vite de dons, d'une intelligence tout à fait remarquable que son père, dans un premier temps, va encourager. Et la jeune femme va très tôt apprendre le latin, le grec, la musique, et elle va lire énormément. Et puis, en 1841, elle a donc une petite vingtaine d'années, il y a un changement radical. Vous savez, de ces changements qui font parfois que dans une vie, tout va changer. Et pour elle, qui va être décisive, la famille déménage à côté de Coventry. Et là, elle rencontre deux couples d'intellectuels qui sont des libres penseurs et qui la convertissent à la libre pensée. Du jour au lendemain, cette jeune femme décide qu'elle n'ira plus à la messe. Et son père, qui est un fervent catholique, réagit extrêmement mal, ne voit pas comment il pourra tolérer la présence de cette jeune femme sous son toit. Il faut imaginer la réaction de la petite sociabilité à la campagne. Et c'est une jeune femme qui, tout de suite, va accepter le conflit comme un mode de fonctionnement et l'audace. Et ces conflits et ces audaces ne vont pas cesser. 10 ans plus tard, lorsqu'elle arrive à Londres après la mort de son père, donc on est en 1851, elle accepte de devenir un rédacteur en chef de la Manchester Review, qui est une revue qu'on appelle radicale à l'époque, disons gauchiste, pour reprendre une étymologie un peu vieillotte quand même, une sorte de temps moderne, si on veut, de l'époque victorienne.
D'où le rapport aussi avec Dickens à ce moment-là.
D'où le rapport avec Dickens, puisqu'il se rencontre d'ailleurs, on dit qu'il se rencontre en 1852, donc à peu près à cette période, et surtout ce qui va être le scandale majeur qui va faire de Marie Evans cette figure scandaleuse de l'époque victorienne, c'est la liaison qu'elle va avoir à partir de 1858 avec Herbert George Lewis, un écrivain, homme de lettres, homme de science, marié, père de famille, qui ne peut pas divorcer pour des raisons assez complexes, mais ils vont décider l'un et l'autre de vivre ensemble, acceptant d'affronter la réprobation sociale. Il faut imaginer l'ostracisation pendant l'époque victorienne, c'est-à-dire que lorsqu'il déménage, elle ne peut même pas sortir de chez elle. C'est le mari qui est obligé d'aller faire les courses. elle commence et Louise va l'encourager à écrire. Elle va d'abord traduire des textes extrêmement sérieux, Feuerbach, Spinoza, une figure d'intellectuel, pour reprendre l'image de temps moderne, une sorte de Simone de Beauvoir, si on veut. Et elle va décider d'aborder le roman. Seulement, elle a un peu peur parce qu'elle se dit qu'avec son nom et le scandale qu'elle suscite, elle a peur que la critique réagisse très mal. Et c'est là qu'elle choisit un pseudonyme. Le prénom, elle l'emprunte à la France, à George Sand, dont déjà la vie et l'œuvre ont beaucoup marqué les esprits. Et elle va publier, donc je le disais tout à l'heure, « Scène de la vie du clergé » en 58, et c'est un immense succès, et un succès qui ne va jamais se démentir et qui va faire effectivement de George Eliot à ce moment-là, avec Sacré et Dickens, le grand auteur de l'époque victorienne.
Alors quelques livres très rapidement qui vous semblent intéressants de souligner, puis vous pourrez peut-être nous dire quel est à vous le livre que vous préférez.
Alors la critique considère que le chef-d'œuvre de George Eliot est Middlemarch, un épais volume, j'ai la traduction en folio à côté de moi, 1200 pages à peu près, donc on est là dans tout à fait le modèle
très dickensien.
Moi j'ai une grande tendresse, peut-être à cause de Marcel Proust, pour Le Moulin sur la Flosse. Marcel Proust raconte qu'il ne pouvait pas verser de larmes, ne pouvait pas lire deux pages du Moulin sur la Flosse sans verser de larmes. Enfin, on savait qu'il avait la larme quand même un peu facile. Moi, un des romans qui me fascine le plus, c'est Daniel de Ronda. C'est le dernier qu'elle publie, donc on est en 1876, elle va mourir en 1880, George Eliot, et c'est un roman tout à fait étonnant. Parce que le personnage Daniel de Ronda, qui est le fils d'un aristocrate, une petite aristocratie anglaise, très vite met en doute son identité. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il part en recherche de son identité, et pour l'y aider, il va faire la rencontre d'une jeune juive, Mira, qui allait se suicider, qu'il sauve, et qui va l'amener à la rencontre de la communauté juive de Londres. Et George Eliot se distingue alors là notoirement de toute la littérature victorienne du 19e siècle, puisqu'elle donne un regard d'une extrême sympathie pour la communauté juive, et notamment un personnage tout à fait fascinant, Mordecai, qui est le frère de Mira, qui annonce et partage avec Daniel de Ronda son rêve, la création d'une nation juive en Palestine. On est là 30 ans avant les déclarations de Balfour en 1917, je crois, et c'est un roman tout à fait étonnant, plein de poésie, d'une minutie dans les détails qui est tout à fait fascinant.
Et qu'on a du coup très envie de lire. Merci beaucoup Frédéric Maget, à très bientôt. Suite et fin de cette compagnie des auteurs consacrée à Charles Dickens. Et en cette période de fête, c'est par les contes de Noël, évidemment, que nous avons voulu conclure cette semaine d'émission. Nous le faisons avec la romancière Dominique Barberis, auteure notamment de la préface à ces contes de Noël dans leur édition chez Folio Gallimard. Et le plus célèbre de ces contes, c'est bien sûr Un chant de Noël, dont voici à présent un extrait lu par François Morel.
Debout parmi les tombes, l'esprit en désignait une. Scrooge s'en approcha en tremblant. « Avant que je m'approche de la pierre que vous me désignez, dit Scrooge, répondez à cette seule question. Ces ombres sont-elles l'image de ce qui doit arriver sans rémission ou de ce qui arrivera peut-être ?» Pour toute réponse, l'esprit abaissa son doigt vers la tombe près de laquelle il se tenait. Les actions des hommes font prévoir certaines fins, et s'ils persévèrent dans leur conduite, ils ne peuvent éviter cette fin. Mais s'ils changent de conduite, dit Scrooge, la fin change. Dites-moi qu'il en est ainsi pour les scènes que vous me montrez. L'esprit demeurait immuable. Scrooge se glissa jusqu'à lui en tremblant, et suivant la direction du doigt, lut sur la pierre de la tombe abandonnée son propre nom. Ebenezer Scrooge. Esprit, s'écria-t-il en s'accrochant à sa robe, écoutez-moi, pourquoi me montrer ces choses s'il ne me reste plus d'espoir de salut? Assurez-moi qu'en changeant de vie, je puis encore changer les images que vous m'avez montrées. La main trembla avec bienveillance. J'honorerai Noël du fond de mon cœur et je m'appliquerai à en entretenir le culte toute l'année. Dites-moi qu'il m'est encore possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre. Les mains levées pour le supplier une fois encore de changer sa destinée, il vit une métamorphose se produire dans le capuchon et la robe du fantôme qui diminuait de taille, s'affaissa, s'amenuisa, jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit.
Bonjour Dominique Barberis.
Bonjour.
Ce chant de Noël, vous l'entendez différemment quelques jours après Noël, mais dans cette période qui reste la période des fêtes de Noël.
Vous voulez dire par là que je le lis différemment ou que j'y suis plus sensible?
Exactement.
Oui, je pense qu'on peut y être plus sensible parce que Dickens parle dans ce conte de l'esprit de Noël et que même si l'esprit de Noël a pu changer, si nos Noëls sont devenus un peu plus commerciaux, il n'en reste pas moins que c'est une période où on pense un peu aux autres, où les fêtes éveillent le sentiment et le souci de la solitude ou du malheur qu'il peut y avoir chez certains et que c'est au cœur de tous ces contes de Noël.
Et vous dites d'ailleurs qu'il faudrait avoir un cœur de pierre et non pas un cœur d'homme pour rester insensible à ces contes de Noël de Dickens.
Alors c'est un emprunt, je crois, à un chant de Noël. C'est une phrase de Dickens, mais je pense qu'elle est tout à fait, enfin elle s'applique bien à ce qu'il écrit parce que d'abord c'est le schéma du conte le plus emblématique, un chant de Noël. C'est l'histoire au fond d'un vieux grigou, on en a entendu un extrait qui est endurci plus qu'il n'est vraiment mauvais en réalité, ou qui est mauvais comme nous le sommes, c'est-à-dire qu'il y a sur lui toute une carapace d'égoïsme et qui va faire un chemin qu'il conduit à s'attendrir, à redevenir sensible à la souffrance des autres. Et au fond, on fait avec lui ce chemin. C'est ce qu'il y a de très remarquable et ce qu'il y a de si génial au fond dans l'écriture de Dickens, c'est que il nous transforme, enfin il fait de nous des Scrooges. Il y a un côté pédagogique, mais cette pédagogie est une pédagogie par l'image, par le théâtre. On assiste à des scènes et on voit au fur et à mesure du conte Scrooge marcher au fond à tout ce qu'on lui montre. Il réagit, il pleure, il s'indigne. Et au fond, le lecteur de Dickens est tout à fait dans cette situation et on a le sentiment au fond de redevenir enfant à la lecture de ces contes, c'est-à-dire de refuser l'égoïsme, le malheur.
C'est pour ça que tout le monde est si gentil pendant la période des fêtes. Alors, ce sont des contes que Dickens a publiés en feuilleton, un par an, entre 1843 et 1848, avant de les réunir en volume, Dominique Barberis. Ils sont indépendants, mais en même temps, ils sont cohérents, ils forment une sorte de tout.
Voilà, ils sont indépendants parce que chacun développe sa propre histoire, parce qu'ils ne se situent pas dans le même cadre. Il y en a qui se situent à Londres, il y en a certains à la campagne. Ils ont tous plus ou moins recours au merveilleux. Il y a des fantômes, il y a des spectres. Ils ont en commun aussi de se situer quand même au moment de Noël, au moment du premier de l'an, c'est-à-dire dans ce même climat que Dickens peint admirablement. C'est-à-dire il fait nuit, il fait froid, il y a du brouillard.
Et il crée même un genre, alors le genre du conte de Noël, il en est un peu à l'origine.
Eh ben probablement, en tout cas je sais que un chant de Noël est un conte qui continue à avoir une extrême importance dans la tradition anglo-saxonne, parce que il reste lié aux caractéristiques du Noël anglais. Il y évoque le repas de Noël avec l'oie farcie, le pudding, qui sent une odeur de restaurant et de lessive, comme il le dit, ce que je trouve assez juste et assez réussi. Donc c'est un peu comme s'il donnait ses lettres de noblesse à la tradition. Et donc il peint très bien cette atmosphère très sombre. Il y a des ombres dont le fantastique jaillit quasi naturellement, parce que voilà, dans le noir, on peut imaginer qu'il y a des fantômes. Et il y a aussi, par symétrie, la chaleur du feu, les foyers autour desquels on se rassemble.
Alors tous les foyers, que ce soit le foyer familial, comme évidemment la cheminée, c'est un motif. Il y a à la fois la poésie du feu et puis l'aspect un peu sociologique du foyer. Et on a l'impression que c'est ça que Dickens arrive à rassembler et que c'est ce qui fait en grande partie l'attrait, la puissance et le charme aussi de ces conte, Dominique Barberis.
Oui, parce que on voit beaucoup de cheminées, et on voit pratiquement...
Les objets sont importants.
Voilà, on voit pratiquement dans tous les contes des cheminées qui correspondent à leurs propriétaires, d'ailleurs. Il y a des foyers très chaleureux, dans la bataille de la vie, il y a une scène de danse où on ne cesse de mettre des bûches sur le feu, et plus le feu brille, et plus on danse avec animation. Et puis, chez Scrooge, la cheminée est un peu triste, il y a un très maigre feu d'avare. Ouais. Et donc, toutes ces cheminées, au fond, correspondent à leurs propriétaires. Et elles créent aussi, il y a une dimension très lumineuse de contraste du noir et de
la
lumière.
C'est très visuel, ces contes.
Oui, je trouve ça très visuel. Et c'est présenté par Dickens lui-même comme une mascarade. Il y a une dimension très théâtrale. C'est-à-dire que, un petit peu, et là encore, le premier conte, Un chant de Noël, est emblématique. Comme dans Le chant de Noël, Scrooge est traîné de scène en scène, des scènes qui lui font assister à sa vie et même, on l'entendait tout à l'heure, à sa mort. Dans les contes, on est traîné avec beaucoup de liberté, de désinvolture, au fond, parce que le merveilleux est un peu un prétexte. On passe d'une scène à une autre, comme si on était au théâtre.
L'essence d'un roman de Dickens, c'est d'abord les souvenirs de l'enfance, souvenirs qui, pour Dickens, s'arrêtent au fond à l'adolescence. Les romans de Dickens sont des romans d'adolescence, et même quand il parle d'être plus âgé, il les voit comme les verrait un adolescent. Et alors, le second élément qui vient de cette enfance, c'est le désir du conte de Noël. Il souhaite que toute cette tristesse, toutes ces humiliations, toutes ces horreurs, que tout cela soit corrigé par l'esprit de Noël. Et il sait que l'Angleterre en est capable, et qu'il aime à peindre les rues de Londres un jour de Noël, avec les gens qui courent avec des paquets, qui sont heureux de faire plaisir, qui vont acheter des nourritures. Et au fond, il se donne dans les contes de Noël ce que n'avait pas eu son enfance, et ce qu'il voudrait donner à tout le monde.
Le Noël de Dickens, c'est le Noël des enfants, comme le disait André Mauroy. On peut considérer qu'une bonne partie, pas toute, hein, la littérature de Dickens, on l'a vu avec Laurent Burie, mais qu'une bonne partie de sa littérature, c'est celle de l'enfance retrouvée. Dominique Barberis.
Alors c'est vrai, particulièrement dans ses contes, le conte s'adresse d'abord peut-être à des enfants. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'enfants dans les contes, mais les enfants ne sont pas nécessairement, là encore, les protagonistes principaux des contes. On voit beaucoup d'enfants, mais les protagonistes des contes sont comme de vieux enfants. Ils sont pas tout jeunes. Dans le Carillon, c'est un vieux commissionnaire, il a 70 ans, mais ils ont un air de vieil enfant. C'est vrai aussi du marchand de jouets, du comte Le Grillon, du foyer, dans lequel ce marchand de jouets a l'air comme ça, d'un vieil enfant, des hommes miniaturisés, il y a un côté un peu marionnette. Mais les enfants surgissent partout, il y a beaucoup de pères de famille, d'ailleurs ces personnages sont des pères de famille, il y a beaucoup de familles nombreuses qui sont peintes avec beaucoup de pittoresque, et il y a beaucoup d'enfants, on voit aussi beaucoup d'enfants malheureux, on parlait tout à l'heure du pathos, c'est vrai qu'il y en a un petit peu dans les contes, il y a une petite aveugle à qui son père cache la triste réalité dans laquelle il vit, c'est-à-dire il n'a pas trop d'argent, et il y a aussi un petit infirme dans Un chant de Noël, mais c'est vrai aussi que Dickens, le pathos de Dickens n'est jamais, c'est pas vraiment du mélodrame, il arrive à être poignant, et je le trouve surtout juste. Et lorsqu'il peint des misères moins voyantes, c'est-à-dire il y a ces enfants dont le malheur est exemplaire, qui ont une douceur
édifiante. Ils sont toujours
édifiante.
Malheureux les enfants, il n'y a pas d'enfants heureux.
Si, on voit des enfants heureux, on voit des marmailles très joyeuses qui se disputent, en particulier dans le dernier conte. Mais je crois que là où Dickens est le plus saisissant, et où, personnellement, il m'émeut le plus, c'est quand il saisit des détresses très menues. La solitude, parce que, par exemple, celle de Scrooge enfant, qui doit correspondre un peu à celle qu'a connue Dickens. Ou alors, un personnage que je trouve très émouvant, c'est dans le dernier conte, L'homme hanté, il y a un des aînés d'une famille nombreuse qui est sans arrêt chargé d'un poupon, c'est-à-dire de sa petite sœur qui fait ses dents et qui est transformée en nourrice par ses parents. Et il y a quelque chose de très pathétique dans ce pauvre petit garçon qui court, toujours chargé de ce bébé et dont on sent très bien qu'on lui a confisqué son enfance.
De toute façon, c'est vrai que Noël, étant associé à l'idée de la famille, du groupe, de la réunion, est aussi, par la même occasion et en contraste, associé à cette idée de la solitude, ses intérieurs, ses foyers, plein à la fois d'objets qui sont les objets de Noël et que décrit Dickens, ils peuvent être regardés aussi depuis la rue froide et la lumière du foyer, elle ne fait qu'éclairer par ricochet un certain nombre de personnes chez Dickens. Donc la solitude, c'est vraiment le sujet pour vous du conte de Noël chez Dickens ?
Alors la solitude, ou en tout cas le fait d'être en dehors de la fête, et effectivement tous ces foyers
regardez
lumineux, voilà, tous ces foyers lumineux éveillent symétriquement le sentiment ou la conscience de la présence de ceux qui sont en dehors. Et les contes montrent des gamins qui essaient de se réchauffer, qui sont à peine couverts, des enfants aussi qui vont manger, qui certes vont avoir un repas de Noël, mais le repas de Noël est un peu maigre. Dans un champ de Noël, la famille de Bob Cratchit, qui est le commis de Scrooge, les enfants se mettent une cuillère dans la bouche pour éviter de se ruer sur la nourriture. Mm-hmm. Dans le dernier conte aussi, il y a un jambonneau rôti, mais il y a plus de jus que de jambonneau rôti.
Ah, mais faut pas regarder dans l'assiette du voisin.
Donc, ce sont toutes ces petites, détresses qui sont montrées avec beaucoup de finesse.
Et alors, par rapport à Andersen, par exemple, est-ce qu'on a une similarité dans le conte de Noël chez Dickens et
alors,
Andersen?
Je trouve, il y a une similarité dans l'émotion, certainement. C'est-à-dire que je pense que Dickens arrive à être poète, comme Andersen, et poignant, parfois, comme Andersen. Mais il y a l'humour en plus. Et c'est vrai que dans ces contes, il y a une leçon morale, où ils se terminent tous bien, les méchants finalement se convertissent ou connaissent une forme de rédemption. Mais il y a aussi toute une structure buissonnante, il y a plein de petits récits adventices, il y a plein de personnages très drôles, saisis avec un très grand sens du croquis, comique. Et tout ça, évidemment, allège et donne une espèce de richesse humaine. Voilà, très grande à l'ensemble des contes.
Alors vous citez dans cette préface quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément associé à Dickens, au contraire c'est Flaubert. Vous dites qu'il y a une tristesse glaciale que Flaubert emploie dans l'éducation sentimentale et qu'on retrouve chez Dickens.
Alors je fais allusion à un passage de Flaubert dans l'éducation sentimentale où tout à coup d'une fête, il nous transporte par l'imagination d'un personnage à l'image de la morgue avec les morts, avec le robinet d'eau froide qui coule sur les cheveux des morts. Et je trouve qu'il y a dans la mobilité très grande de Dickens, il y a une capacité à nous faire passer comme ça d'une fête ou d'une impression, d'une espèce de gourmandise de la vie, à tout à coup un aperçu silencieux sur des détresses très grandes. Et je crois que j'évoque ça à propos du personnage du petit infirme Tiny Tim dans Un chant de Noël. Scrooge le voit et demande à l'esprit qui lui montre la scène, est-ce qu'il va survivre ? Et en réalité, on comprend, il y a une scène où on comprend qu'il est mort. Et effectivement, le désir de terminer dans l'optimisme fait que Dickens nous dit non, il va pas mourir. Mais on sait bien que c'est ce qui va arriver, on sait que c'est la réalité. Et je crois que Dickens évoque la dureté de la réalité. Mais voilà, il l'a reconvertie ou il la transforme à la dernière minute.
Et Flaubert, vous êtes en plein dedans, puisque vous allez publier dans quelques jours un roman sous le titre « L'année de l'éducation ». passion sentimentale. On peut même voir du Duras, paraît-il, chez Dickens. Ça, c'est bizarre,
non,
ça.
Alors, non, mais là encore, c'est à propos de ce personnage de petite infirme appareillée qui m'a évoqué au cours de la lecture, mais je n'ai pas voulu suggérer un rapport quelconque, ni une proximité quelconque entre Duras
pas,
et Dickens. Mais c'est vrai, ça m'a frappé. Il y a un passage de La vie matérielle où elle évoque comme ça une scène sur la plage où elle passe sur la plage, elle voit un ballon qui est toujours à la même place et lorsqu'elle s'approche, une fois, elle s'aperçoit que le ballon ne bouge pas parce qu'il est tenu par un petit infirme. Et voilà, il y a une espèce de tristesse terrible qui surgit à ce moment-là et qui m'a paru proche de celle qu'arrive à suggérer dans ses moments les plus poignants Dickens.
Merci beaucoup Dominique Barberis d'être venu nous voir.
Merci.
Pour nous parler des contes de Noël de Dickens que vous avez donc préfacé pour leur édition en folio classique en 2012. Je rappelle que vous allez donc aussi publier un nouveau roman dans quelques jours, le 11 janvier exactement, intitulé L'année de l'éducation sentimentale, c'est chez Gallimard, où vous avez déjà publié La vie en marge en 2014, Beau rivage en 2010 et Quelque chose à cacher en 2007. C'était le dernier épisode de notre semaine consacrée à Charles Dickens. La semaine prochaine, nous parlerons de Julien Gracq. Mais tout de suite, comme chaque jour, un moment de poésie, c'est avec Jacques Bonnafé.
Voulez-vous, parlons d'autre chose. Il y a des esprits moroses, des esquimaux, des échimoses. Desnos disait des mots exquis. Il neige sur les mots en ski. Chez qui? On ne meurt plus que de cirrhose. On ne lit plus que de la prose. On s'en paye une bonne dose. Desnos disait que c'est la vie, la prose, et peignait au la vie, ce bel avis. Le dernier poème où l'on cause, le dernier laït où qu'on ose, où ai-je mis le sac en prose? Desnos ne vous a pas dit tout, ni pourquoi les jolis toutous vont à Chatou. Il faut prendre à petite dose les lapins animaux qu'on pose dans les bois de fausse repose. Si l'on veut les points sur les i, on a perdu la poésie à Vélizy. Ceci est un poème de Louis Aragon, en hommage à Jacques Ralite qui nous a quittés. Poème pour oublier. Poème pour oublier que Jack n'est plus. Alors dans ce cas, peut-être demain le téléphone va sonner. Allô Bonnafé, est-ce que tu serais libre? C'est pour une lecture sur la Syrie, tu sais, il faut agiter du... Allô Bonnafé? Bonnafé, est-ce que tu serais libre pour une lecture avec d'autres comédiens sur les prochains états généraux de la culture? Je pense qu'il faut s'inquiéter. Le politique n'a pas pour mission première de renouveler la langue. Le poète, si. Toute pensée politique s'enrichit au contact d'une pensée poétique. Jacques Ralite. Il règne des vues diverses en matière de divorce. On n'en tranche point en Perse comme en Corse. Louis Aragon. Il y a des gens simplistes devant la gare de l'Est qui reprochent aux cyclistes d'être leste. Un camelot vent de la crème a rasé boulevard du crime, tandis qu'à maquiller les brèmes, à macro s'escrime. C'est un sale métier que de devoir sans fin, n'étant coupeur de bourse. Bonneteur charlatan monte en l'air aigrefin, vendre la peau de l'ours. À Paris, les fourreurs écrivent en anglais, selon d'anciennes mœurs, le mot fur que la rime enseigne, s'il vous plaît, à mieux prononcer furs. Cela n'attire plus les clientes blasées par ces temps de bebop et ni le lapin russe ou le mouton frisé dans leurs tristes échoppes. Et cette odeur de peau qu'il faut que vous sentiez n'est pas très romantique. L'opossum à la fin, c'est tout aussi lassant que la loutre marine. Oh, qui dira l'ennui qui prend le commerçant derrière ses vitrines. Quand je pense pourtant aux perceurs de plafond dont la vie est si dure. Au cinéma, j'ai vu comment ces gens la font et Dieu sait si ça dure. Et si je me souviens bien, je terminais chacune de mes allocutions par ces mots de Matisse, dit Jacques Ralite. Il faut que le peintre accepte que surgisse sur sa toile l'imprévisible. Comment voudriez-vous que je dise cela mieux que lui? La politique est souvent l'analyse de constats. La poésie, l'art, une histoire d'horizon. Et vous vous rappelez d'ailleurs ce que dit Tadeusz Kantor? L'art est inutile. L'amour aussi.
Merci Jacques Bonafé.